La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de la mêlée de l'info. Je reçois aujourd'hui Françoise Laborde, ex-sénatrice de la Haute-Garonne, membre du RDSE et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Agathe Roby, historienne, conseillère municipale de Toulouse, conseillère communautaire de Toulouse Métropole, membre de la France Insoumise, et enfin Christian Autier, journaliste et écrivain, directeur de collection aux éditions Priva. Bienvenue aussi à tous les trois. Merci d'avoir accepté de débattre des sujets que je vous ai proposés. Le premier, c'est la primaire populaire qui a eu lieu le week-end dernier. Près de 400 000 personnes y ont participé, ont voté, et ils ont placé en tête assez nettement Christiane Taubira, qui a devancé Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo n'arrivant qu'en cinquième position. Ces trois derniers candidats avaient annoncé au préalable qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat de cette consultation. Christiane Taubira a appelé dans la foulée Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon à se rassembler derrière elle pour une candidature unique à gauche. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce vote et à ces résultats qui sont en fait des sortes d'évaluations, ou les avez-vous regardés de loin en considérant dès le départ qu'ils n'avaient ni sens, ni importance, ni valeur à vos yeux ? Alors Françoise Laborde, vous avez été longtemps membre du PRG, je crois que vous y avez fréquenté Christiane Taubira. Quel regard portez-vous sur cette primaire populaire et sur sa victoire entre guillemets ?
Alors, j'ai fait partie des personnes qui ont regardé d'un peu loin. Je n'avais pas du tout l'intention de participer à cette primaire populaire. Et quand je vois quand même les chiffres, je me dis que on n'est pas à 400 000 électeurs pour 47 millions, presque 48 millions d'électeurs potentiels pour les présidentielles. Ça confirme que ça ne sert pas à grand chose. Après, c'est des très bien, des bien. C'est quand même un petit peu fait. Alors certains ont dit que c'était fait sur mesure pour Christiane Taubira. Je n'irai peut-être pas jusque-là parce que je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas faire l'union de la gauche et que ça va peut-être même créer des tensions supplémentaires. En 2002, je sais qu'on avait reproché à Christiane Taubira et donc à ses amis PRG, dont je faisais partie à l'époque, d'avoir fait perdre Jospin.
Dans les faits, si on
additionne, c'est un peu vrai. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle fera perdre qui que ce soit, mais je ne suis pas sûre qu'elle fasse gagner non plus qui que ce soit. Donc c'est un peu embêtant, parce que la gauche n'en sortira pas grandie. Pour moi, c'est un facteur supplémentaire, c'est du poil à gratter supplémentaire, voilà. Ça, c'est ma première remarque, peut-être pas très sympathique. Donc, c'est vrai aussi que les choses ont évolué. Et moi, aujourd'hui, je cherche le programme de Christiane Taubira, comme je cherche le programme d'autres. Hein. Pour l'instant, on me dirait, Françoise, vous votez pour qui ? En dehors du fait que j'ai peut-être pas envie de vous le dire ce soir, je me pose des questions. Donc, alors elle a passé quelques coups de fil, alors comme j'avais un petit air plaisantin ce soir, Arnaud Montebourg aussi a passé quelques coups de fil. Du coup, vu les réponses qu'il avait eues, il s'est retiré. Je ne sais pas si Christiane se retirera, parce qu'il y a aussi quand même, rappelons-le, le problème des parrainages. Il faut arriver à 500. Ça se posera pour d'autres, mais pour elle, ça se pose aussi. Et juste un petit point, parce que entre 2002 et aujourd'hui, il y a eu 2004, et vous savez combien je suis attachée à la laïcité. Donc à l'époque, elle n'a pas voté le texte de loi contre les signes ostentatoires à l'école. Elle a fait une sortie sur la laïcité. Si je veux prendre ces mots exacts, c'est une laïcité qui n'écrase pas. Je me dis que c'est pas une maladresse quand on connaît Christiane.
Oui, donc, a priori, voilà. Elle connaît le sens des mots.
Elle a normalement, voilà, parce que j'ai apprécié le vote pour le mariage pour tous, j'ai apprécié certaines choses, hein, en fait. Mais à l'instant T, je peux vous dire qu'elle n'aura pas ma voix.
Bon, voilà, ça au moins, c'est clair. Et ce que vous avez dit aussi me laisse à penser que votre cas correspond bien à beaucoup de personnes qui votent à gauche habituellement, qui sont désorientées aujourd'hui, qui ne savent pas trop pour qui voter, à tel point que peut-être beaucoup d'entre elles ne voteront pas du tout. Agathe Roby, alors vous, votre candidat Jean-Luc Mélenchon, avait dit d'emblée, moi, la primaire populaire, c'est pas mon truc, je ne souhaite pas de toute façon considérer les résultats comme légitimes, donc je ne m'alignerai pas sur le choix de ceux qui auront participé. Est-ce que vous vous êtes quand même intéressé à ce scrutin, j'allais dire non, à cette consultation ?
Alors oui, bien sûr, c'est pas parce que les membres de la France Insoumise n'ont pas participé à ce scrutin qu'on ne l'a pas regardé, puisque je pense qu'il faut entendre les personnes, une partie des personnes en tout cas qui sont dans une démarche sincère et qui ont participé à cette primaire populaire et qui ont un souhait, celui de voir la gauche être présente au second tour. Nous on pense que ce n'est pas de faire une union de la gauche sans programme clair, sans programme de rupture, que cela arrivera, mais par un travail de conviction que nous faisons autour donc du programme L'Avenir en commun au sein de la France Insoumise. Voilà, ça c'est le premier point. Le second point, je rejoins ce qui a été dit. Malheureusement, en fait, l'arrivée de Madame Taubira en tant que candidate rajoute plus de confusion que ne favorise l'union. On a une candidate de plus qui s'est présentée à un scrutin qui était, je suis désolée, mais façonné pour elle. On l'a dit à de nombreuses reprises, nous avons refusé de participer à cette primaire. On nous a forcé à y participer. C'est le cas aussi de Anne Hidalgo et de Yannick Jadot. Et donc voilà, c'est une candidature que nous regrettons, qui rajoute de la confusion là où il faudrait plus de clarté.
Alors, Christian Autier, vous n'êtes pas engagé politiquement, contrairement aux deux autres précédentes intervenantes. Vous avez forcément regardé ça. Avec intérêt ou...
Non, mais moi, je situe cette primaire, enfin cette consultation, c'est entre l'usine à gaz et la mascarade. Comme on l'a évoqué, effectivement, il y a des candidats qui ont été convoqués malgré eux, qui ne voulaient pas y participer. C'est quand même une conception assez baroque de la démocratie. Donc Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo. Je crois, si je suis bien informé, Fabien Roussel, lui, n'y était pas. Qu'il voulait pas y participer,
Il trace sa route.
Il était mis à l'écart. Enfin, donc c'est assez curieux. Et ensuite, moi, ce que j'avais lu dans la presse, c'est que cette opération consistait en une mise en orbite de la candidature de Christiane Taubira. Donc, de ce point de vue, ça a été assez réussi. Et ce qui m'a frappé, c'est dans les résultats. Donc, il n'y a pas eu. Moi, j'ai pas entendu de nombre de voix, de pourcentage, mais donc des évaluations un peu comme à l'école ou comme au collège, avec satisfaisant, très satisfaisant, peut mieux faire. Donc, il y avait une sorte d'infantilisation où peut-être qu'il fallait pas blesser. Candidats, en les classant vraiment, enfin même s'il y a eu un classement, enfin bon, tout ça m'a paru assez ridicule. Et sur le fond, je me souviens quand Christiane Taubira a fait part de ses velléités éventuelles de se présenter à la présidentielle, elle a dit ce ne sera pas une candidature de plus. Si je viens, c'est pour réunir. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on a ? Une candidature de plus, puisque apparemment, elle s'appuie notamment sur ce résultat pour confirmer sa candidature. Donc, ça aussi, ça me sidère au pays de Descartes, de la raison, du cartésianisme. Voilà, on a des gens qui sont pas là pour faire une candidature de plus, et au final, qui font une candidature de plus. Enfin bon, on est chez les fous, quoi.
Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, certains l'ont accusé, je vais employer le terme, qu'elle a instrumentalisé un peu cette primaire populaire à son seul profit et pas du tout dans le but de créer une espèce d'union autour d'une candidature qui aurait pu être une autre que la sienne, Françoise Laborde.
Bon, je ne vais pas aller jusque-là par rapport aux relations que j'ai eues avec elle il y a quelques années. Mais je partage par contre le mot mascarade, quoi, par rapport à la démocratie. Ça ne fait pas grandir notre démocratie. On est quand même proche des élections. Plus ça va, pire c'est, j'ai l'impression. Et quand on s'étonne que les électeurs potentiels ne savent plus où ils sont, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont devenir et surtout pour qui ils vont voter, je le comprends. Je le comprends parce que c'est une, j'aime beaucoup votre mot, une mascarade démocratique.
Oui. Vous, Agathe Robbie, à la France Insoumise, est-ce que on a pu voir ça comme une, si ce n'est une instrumentalisation, en tout cas un opportunisme de Christiane Taubira par rapport à cette primaire populaire qui c'est pas elle qui avait souhaité qu'elle soit organisée, mais enfin bon, tout de même.
Non, je sais pas, moi j'irai pas non plus jusqu'à dire que Christiane Taubira a instrumentalisé la primaire populaire. Néanmoins, on a effectivement un problème sur le fait qu'elle a annoncé qu'elle ne voulait pas être une candidate de plus et qu'elle, en fait, elle trahit ses promesses à un moment où les Françaises et les Français ont besoin d'avoir à nouveau confiance, ont moins confiance dans les élus. Et donc je pense que ça n'envoie pas du tout le bon signal. Le second point, c'est aussi, il n'y a pas que Christiane Taubira, il y a les porte-parole de la primaire populaire qui, malheureusement, a un discours qui, je pense, n'aide pas au retour aux urnes. C'est-à-dire qu'on est dans un certain fatalisme. Le discours, c'est il faut à tout prix l'union de la gauche, sinon la gauche ne sera pas au second tour. Et ça, pour moi, cette stratégie, elle est néfaste parce qu'elle va démobiliser, elle va décourager des personnes qui pourraient aller voter. Ce n'est pas, pour moi, le discours qu'il faut avoir. Au contraire, il y a des possibilités que la gauche soit au second tour. Je prends l'exemple de 80, mais Mitterrand accédait au second tour, il y avait énormément de candidatures à gauche. Donc ce n'est pas une fatalité. La gauche ne va pas est présente. Il y a des programmes, il y a des militants qui sont sur le terrain dans toutes les formations politiques de gauche depuis des mois. Et leur dire non, vous ne servez à rien, nous allons boycotter les parrainages, nous allons empêcher les partis politiques d'avoir des prêts, ce n'est pas pour moi une démarche qui est correcte. Et j'espère d'ailleurs que Madame Taubira, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez sans doute vu, a envoyé un SMS à Christiane Taubira à la suite de son intronisation par la primaire populaire, en lui demandant justement de ne pas empêcher le fait que des élus puissent parrainer la France insoumise.
Alors vous, Christian Autier, opportunisme, instrumentalisation, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui veut faire cavalier seul.
Non, moi, ça me suggère deux remarques. D'une part, ce qui est dommage avec ce processus, c'est qu'en plus, notre système a besoin peut-être de démocratie plus directe. Alors, ça peut passer par la vieille formule du référendum et de consultation, effectivement. Donc, cette espèce de scrutin presque arrangé, un peu bancal, discrédite ce genre de consultation, j'allais dire parallèle au système classique, alors qu'on en a sans doute besoin. Et par ailleurs, je vois pas effectivement l'utilité, à part le narcissisme de la candidate, l'utilité d'une telle candidature, puisque admettons, si ça avait été la femme providentielle, si les sondages la donnaient à 10, 15, on peut se dire pourquoi pas cette tentative de putsch démocratique, si je puis dire. Mais elle est dans les sondages entre 4 et 6. Elle a pris des voix apparemment à Anne Hidalgo, qui est entre 2 et 3, Yannick Jadot, peut-être un peu à Mélenchon. Donc quel est l'intérêt, encore une fois, sur un pur plan stratégique, politique, pratique, d'avoir encore une candidature de plus? Donc je ne comprends pas le sens, à part effectivement la satisfaction narcissique pendant 2 mois de paraître dans les écrans, à la télévision, sur les ondes, etc. Mais ça me laisse encore pantois, quoi.
La pauvre Christiane Taubira, moi je parle d'instrumentalisation, vous parlez de narcissisme, on n'est pas gentil avec elle.
Alors, ce soir, bon, mais... tant pis.
Tout de même, quelles conséquences ça peut avoir, cette primaire populaire? Est-ce que, apparemment, vous pensez que ça va encore accentuer encore plus les divisions à gauche, qui étaient préexistantes? Ou est-ce que ça pourrait quand même, c'est un peu tôt pour se prononcer, doper la candidature Taubira? Vous n'y croyez pas du tout?
Si elle continue à faire quelques bourdes comme elle a fait dans les discours récents, et si elle n'a pas de programme, parce que pour l'instant, quand même, il n'y a pas un grand programme.
Un peu embêtant de se porter candidat à la présidentielle sans avoir un programme avant.
Voilà, donc du coup, pour moi, même si en son temps, je l'ai trouvé fort sympathique, etc., aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit elle qui va sauver les élections présidentielles.
À gauche.
Oui, je parle à gauche, quoi. Enfin, je n'y crois pas, ce n'est pas possible.
Agathe Robbie non plus, manifestement.
Non, je pense que s'il y avait eu un effet sur sa victoire à la primaire populaire, on l'aurait vu dans les sondages. On est à 4 jours après ce résultat d'élection. Elle est toujours entre 4 et 6 %.
Il est vrai que pour Valérie Pécresse, on l'avait vu très vite.
Voilà, normalement, ces primaires sont là pour ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la primaire écologiste n'a pas eu cet effet. Yannick Jadot n'a pas pris de pourcentage dans les sondages à la suite de son intronisation par la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Alors, je ne sais pas quelles conclusions on peut en tirer, mais ça laisse à réfléchir.
Il y a même tendance à s'effriter, Yannick Jadot, dans les sondages. Christian Autier.
Oui, ça me permet de rebondir. Moi, je trouve ce que vous disiez sur les primaires, le système peut-être qui s'essouffle. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que sous la Ve République, pendant longtemps, on a importé, je crois que c'est les socialistes les premiers qui ont fait ça, ce système des Américains, parce qu'on trouve ça très, très bien, très moderne, très branché. Mais sous la Ve République, jusqu'à présent, la primaire s'appelait le premier tour. Et on voit encore, ils continuent encore malgré tout de faire ce rôle. Donc, Est-ce que ce système de primaire, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que chaque parti, chaque mouvance, chaque clan doit passer par cette préélection? Enfin, et naguère, je me souviens effectivement, que ce soit des candidats de gauche, il y avait Mitterrand, il y avait Georges Marchais, il y en avait d'autres, il y avait Chirac, Balladur, il y a eu Raymond Barre, Chirac.
Ils s'imposaient d'eux-mêmes.
Il y avait Giscard, Chirac, voilà, il y avait.
Ils s'imposaient d'eux-mêmes dans leur parti. Et voilà.
Est-ce qu'il y a besoin forcément de faire ces systèmes? Bon, après chacun.
On a l'impression que ça fait un peu le spectacle à la télé.
Mais vu effectivement l'adhésion, on va dire, très très relative qu'elle attire, parce que autant aux États-Unis, dans un système qui est vraiment ancré, où il y a deux énormes partis qui monopolisent l'électorat, et ensuite vous avez lors de l'élection présidentielle 3-4 candidats assez marginaux d'une manière générale, de temps
parfois
en temps vous avez
un
Ross Perot ou un Ralph Nader qui font un peu moins de 5, mais sinon ce sont des choses totalement marginales. Bon, le système américain, il est pas, on peut pas le calquer, et nous on essaie de le calquer. Bon, je suis pas tellement convaincu par le principe de la primaire.
Moi non plus.
Alors,
sur la primaire, je voudrais rebondir. Et puis, bon, je trouve que c'est quand même un mécanisme qui pose question. Bon, nous, on ne l'applique pas au sein de la France Insoumise et de l'Union Populaire, mais il y a quand même aussi une volonté de personnification et de. On ne débat plus des programmes parce que ce premier tour, il est censé être là aussi pour ça. C'est pour discuter des désaccords de fond qu'il peut y avoir et parler de fond. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'on parle juste de personnes. La primaire populaire, c'est à qui est le plus beau et pour qui allez-vous voter. Mais il n'y a pas de socle commun. Il y a un socle commun qui est quand même assez insuffisant. On nous dit que des membres de Europe Écologie des Verts et de la France Insoumise y auraient participé. C'est absolument faux. Et on ne débat plus des idées, mais on débat que sur les personnes. Et pour moi, c'est quand même problématique.
Une candidature du Monde de la Gauche, a priori, il faudrait qu'il y ait quand même un accord sur le principal, quoi.
Sur du programme, oui.
Ça s'appelait le programme commun, la guerre.
Voilà, il y a eu le programme commun, et on repart du PCF, époque Georges Marchais, depuis quelque temps, avec Fabien Roussel.
Et le Parti Radical,
à l'époque. Radical,
voilà. Oui, tout à fait.
Alors, Françoise Laborde évoquait les bourdes de Christiane Taubira. Alors, justement, je voudrais qu'on l'écoute, parce qu'elle a fait ses premières sorties de vainqueur de la primaire populaire. Elle était invitée hier par la Fondation Abbé Pierre, qui vient de publier son rapport sur l'état du mal-logement en France, pour s'exprimer sur le sujet et faire part de ses propositions dans ce domaine. Eh bien, il semble que ce ne soit pas encore tout à fait au point. Écoutez, par exemple, cet extrait de son entretien.
Juste, pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté, quand même.
Oui, mais on y ajoute... On y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part, et puis je considère que il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux.
Et voilà, c'était Christiane Taubira qui s'exprimait donc hier en ces termes sur le mal logement lors de son entretien à la Fondation Abbé Pierre. Je ne sais pas qui l'a rédigé, ses fiches, mais elle n'a pas l'air de bien maîtriser le sujet. On aurait dit Christine Angot dans ses meilleurs moments. Alors c'est tout de même un peu embêtant qu'une candidate de gauche, qui se voudrait la candidate d'Union pour l'ensemble de la gauche, soit si peu à l'aise sur des questions comme celle-ci, où elle sait forcément qu'elle est attendue, parce que là, il n'y avait pas de surprise. Elle savait qu'elle aurait des questions sur ces sujets-là. Françoise Laborde, vous venez de découvrir, je crois, sa prestation.
Je la découvre, puisque moi, je vous ai parlé de celle que j'avais suivie, donc sur la laïcité. Celle-là, je la découvre, et j'avoue que, bon, venir à Radio Présence chez Éric Dupri, déjà, on ne vient pas les mains dans les poches. On a quand même l'habitude de regarder un petit peu de quoi on va parler. Donc, une future candidate ne se soit pas un petit peu renseignée sur ce qu'il fallait éventuellement dire ou avoir au moins quelques mots à dire à la Fondation Abbé Pierre, j'avoue que j'en suis pantoise. Je ne peux pas dire grand-chose de plus.
Et vous pensez que ça en dit long sur son vide programmatique ?
Ah ben, c'est-à-dire que... Ou alors elle a été surprise d'être si bien cotée...
Oui.
Lors de la primaire populaire, et que du coup maintenant il faut qu'elle se dépêche d'engranger un certain nombre de connaissances diverses et variées, parce qu'elle en a, elle est intelligente, elle a l'habitude de rebondir, mais là quand même elle savait bien qu'on allait lui parler de précarité, de logement, ou alors je sais pas où elle allait, quoi.
Là elle faisait plus que patauger, pour le dire gentiment. Agathe Roby, quand on est un électeur de gauche et qu'on entend ça, il n'y a pas de quoi vraiment avoir envie de partir sur la planète Mars.
Oui, bon, moi je pense que j'ai effectivement vu cet extrait aujourd'hui. Et il y a un problème de crédibilité. Voilà, la gauche, elle ne souffre pas de problème de dispersion. Elle a besoin de crédibilité, d'un programme qui est en rupture aussi. Et là, bon, Christiane Taubira n'est pas du tout à la hauteur. Et bon, j'espère que, je ne sais pas, j'ai même pas vu si elle avait un programme en fait. Donc moi, je ne sais pas. Voilà, c'est qu'on peut pas se rassembler derrière une personne.
Beaucoup de gens posent la question, manifestement. Hein. Oui. Est-ce qu'elle a un programme? Vous aviez déjà entendu, je crois.
Oui, non, enfin, ce genre.
Bon, on rigole un peu, mais oui, c'est un peu facile.
C'est un peu injuste et cruel, mais au-delà, mais même si c'est avéré, on peut pas faire l'impasse. Mais je crois que au-delà, oui, il y a quand même ça témoigne, je pense, d'une perte de densité, de fond, de la classe politique, plus généralement, de la classe politique française, ou alors on cède à la démagogie, aux effets de manche. Alors, c'est pas nouveau, mais alors, j'ai l'impression que ça prend des proportions parfois inédites. Hier, j'entendais donc, là aussi tout le monde en a parlé, Valérie Pécresse et Marine Le Pen qui réclamaient le renvoi de l'ambassadeur du Mali.
Oui,
il n'a plus l'ambassadeur du Mali depuis 2 ans. Alors ils ont dit non, mais en fait, on pensait au chargé d'affaires. Alors, ouais. C'est vrai que moi je ne connaissais pas, j'ai découvert qu'il y avait des chargés d'affaires, donc comme beaucoup de Français.
Comme
je le crains aussi, Valérie Pécresse et Marine Le Pen, après les avis de leurs conseillers qui ont déniché qu'il nous restait un chargé d'affaires malien. C'est pas sérieux. Ou hier encore, j'entendais, je crois, le président de la République, alors je cite de mémoire, je crois, a débloqué 100 millions d'euros pour je ne sais plus quelle industrie, grande entreprise. Donc j'entends immédiatement Marine Le Pen dire c'est scandaleux. Le président de la République se sert des deniers de l'État pour faire campagne. Et quelques minutes plus tard, je vois la réaction d'un autre membre du Rassemblement national qui dit c'est scandaleux, c'est passé, il fallait 200 millions d'euros. Donc, enfin voilà, ouais. On en est là. Enfin, ce degré de médiocrité, de démagogie est assez désespérant.
C'est très inquiétant parce que vous faites un radio-trottoir comme ça se faisait, le prix du timbre ou le prix de la baguette, ça faisait sourire. Chirac ou d'autres se sont fait avoir, Fillon,
oui,
etc.
Copé,
vous vous souvenez, Copé, etc.
Ouais.
Bon, on s'amuse, mais là, c'est sérieux. Ce sont les APL, c'est le logement, c'est la précarité. Donc moi, ça ne m'amuse pas et c'est vrai qu'il y a un vrai manque de crédibilité.
Il est vrai que si elle s'était exprimée sur un sujet économique, je n'aurais pas diffusé ça parce qu'on aurait pu comprendre qu'elle patauge un peu. Mais candidature de gauche, la fibre sociale, on doit l'avoir normalement. Et que sur un sujet comme ça, on ne soit pas capable de sortir plus que des espèces de borborigmes sans queue ni tête. Oui, c'est tout de même un peu inquiétant. Alors, revenons à la gauche en général, hein, parce que l'ensemble des candidatures ne représente toujours dans les sondages, je dis bien dans les sondages, que plus ou moins 20% d'électorat. Aucun des candidats ne semble aujourd'hui à même de se qualifier pour le second tour, voire de dépasser les 10%. Jean-Luc Mélenchon, dans certains sondages, les atteint, voire les dépasse un peu. Est-ce que vous croyez, malgré tout, après cette primaire populaire, qu'une surprise est encore envisageable le 10 avril au soir du premier tour de la présidentielle? Agathe Roby va me répondre forcément, mais oui, bien sûr.
Alors je réponds tout de suite, sûr. Oui. Bon, moi, nous sommes aux portes du second tour. Nous sommes à 1,5% des portes du second tour avec la France Insoumise.
Hein.
Non, non. Moi, après les sondages, Jean-Luc Mélenchon est entre 10%. Il a passé la barre des 10. Et sur d'autres sondages, on est quand même 15%. Donc
je
le second
pas,
tour.
Il a 15, moi. Il y a des sondages où
il
a 15.
Il me semble, oui, 13, 14.
Oh,
ça dépend. 15, bon. 15 peut-être pas. Bon, j'ai exagéré, pardon.
Il est vrai que 13, il est pas si loin.
J'ai fait une fourchette.
Le seuil semble être à 17 aujourd'hui.
Bon, moi, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, il y a 5 ans, il était à ce niveau-là. Dans les sondages, il a fini à 19%. Donc il y a une possibilité que la gauche soit au second tour. Et la possibilité la plus crédible, c'est celle de l'Avenir en commun et c'est celle de Jean-Luc Mélenchon.
Alors effectivement, c'est aujourd'hui le mieux placé. C'est vraiment, je pense que la différence tout de même par rapport à 2017, c'est que le potentiel global de la gauche n'est que de 25%. Il était beaucoup plus élevé à l'époque. Oui. Alors il va prendre des voies à droite, on ne sait pas.
Oui, moi je suis plutôt
pessimiste.
Parce que c'est vrai que quand même, il n'y a pas d'enthousiasme, quoi. Enfin, donc à part l'enthousiasme
d'Agathe Roby, qui a bien fait passer
voilà. L'enthousiasme. Non, je trouve qu'il y a un manque d'enthousiasme. On sent que, à la limite, même les gens qui se présentent sont pas hyper convaincus, à part Jean-Luc Mélenchon, peut-être, qui lui aussi.
J'ai entendu Yannick Jadot il n'y a pas longtemps, c'est vrai que j'avais. Ouais, je ne sentais
on
pas
sent,
non plus
voilà.
Un souffle.
Je trouve que Roussel est pas mal dans son genre. Voilà, moi, voilà.
Bah, c'est le seul qui a une dynamique.
Voilà,
faible,
pour
le
l'instant, je suis désolée, mais à la limite, voilà. Mais parce que bon, moi, Jean-Luc Mélenchon, quand il n'est pas arrivé au second tour la dernière fois, moi, j'avoue que j'ai vu son visage. visage de déception, mais visage, regardez-le, vous penserez à moi, où vraiment il y avait une... alors évidemment, à la radio, les gens voient pas la tête que je fais, mais c'était plus que de l'amertume, c'était presque, j'irais pas jusqu'à méchanceté, enfin... Et je l'ai revu deux ou trois fois avec ce visage lors d'interviews. Quand il n'est pas d'accord, il prend sa tête de méchant. Et moi, je ne voterai pas pour un méchant non plus. Bah, disons, ça fait déjà deux ce soir. parce que, donc, il a l'enthousiasme. Il a évidemment la façon de parler. Il a beaucoup de choses. Il a peaufiné son programme aussi. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais... il est quand même raide. Bon, enfin bref, c'était pas la question. La question, c'était, seront-ils, la gauche sera-t-elle au deuxième tour ? Eh bien, je n'en suis pas sûr.
Alors, Christian Antier, les carottes sont cuites à gauche ?
Non, y a, à mon sens, il n'y a absolument aucune chance que...
Il n'y a pas de suspense.
Aucun candidat n'accède au second tour. Après, il ne faut pas oublier quand même que dans l'électorat de gauche, il y a en gros 15% qui est chez Emmanuel Macron. Hein. Les 25% oui, de Macron, oui, c'est 15% de l'ancien vote socialiste et 10% du vote Fillon. Donc, en mettant l'électorat du Parti Socialiste, ça n'a pas disparu. Il a disparu du Parti Socialiste.
Non, mais c'est vrai que c'est important de rappeler. On a du mal à croire que la gauche en France, c'est que 25%.
Enfin, on oublie souvent que voilà, Macron, malgré tout, a réussi ce ni droite ni gauche ou à droite.
Oui, mais est-ce que ça va rester jusqu'au bout ? C'est ça qu'on ne sait pas.
En tout cas, les électeurs de gauche ne sont pas revenus à leur vieux parti, enfin, du moins au PS.
Hidalgo ne les a pas fait revenir au PS, ça paraît clairement.
Non. Et elle va faire peut-être deux fois moins que Benoît Hamon, qui avait fait déjà un score historiquement.
Hier, il y a eu un sondage qui l'annonce à deux.
Qui se rapprochait de 1969 avant le congrès d'Épinay. Non, il n'y a aucune chance. Et après, sur Jean-Luc Mélenchon, enfin, moi j'ai eu l'occasion de le dire ici il y a déjà plus d'un an, je disais qu'il allait payer la manifestation contre l'islamophobie. Je pense qu'il va payer ses récentes déclarations de genre supprimer les bacs. Voilà, il y a une espèce de... Il drague un électorat qui ne viendra pas à lui. Enfin, d'ailleurs, on le voit dans les sondages. Et moi à mon sens, enfin, on peut prendre les paris, mais je pense qu'il fera 10 au maximum et peut-être 9. Donc, deux fois moins qu'il y a 5 ans. Et là, il faudra peut-être s'interroger. Enfin, je pense qu'à la France Insoumise, on aurait dû s'interroger. Je l'avais dit au régional, ils ont été laminés au régional. Voilà, il y a un problème. En moins de 5 ans, faire deux fois moins, c'est pas possible.
Agathe Robi, ça, tout de même, je pense que vous en parlez en interne à la France Insoumise, 19 en 2017, et depuis, bon, ça n'a été qu'une chute régulière, on l'a vu au régional. Alors, c'est pas le même scrutin,
oui,
parce qu'il y a la personnalité de Mélenchon, on est bien d'accord. Mais...
C'est pas qu'une question de personnalité, c'est qu'il est vrai que la France Insoumise est une organisation qui est plus taillée pour les élections présidentielles que les élections intermédiaires, qui sont complètement différentes. Donc, je rappelle également que donc sur les élections régionales et des nous, on a eu une volonté pendant très très longtemps de la main tendue vers l'ensemble des organisations politiques de gauche, main qui a été refusée. Donc on a pris beaucoup de temps pour demander à ce que, parce que sur des échelles locales, on a des accords. Et il n'y a pas de problème pour le fait de gouverner ensemble. Bon, donc pour moi, il ne faut pas voir dans ces échecs, et encore que les régionales et départementales, je rappelle également qu'il y a eu la pandémie qui a beaucoup, beaucoup impacté le résultat, le fait que le matériel de vote n'ait pas été envoyé par le gouvernement, que les professions de foi n'aient pas été envoyées à au moins 15% de la population française par le gouvernement. Bref, bon, il y a plein de raisons qui font que ces scores, ils sont bas. Et je le redis, nous étions au même niveau dans les sondages en 2017, donc cette dynamique, on peut la retrouver. La situation, je suis d'accord, elle est différente, mais tout n'est pas perdu. Moi, je refuse d'être dans le fatalisme parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on arrivera au second tour. Je pense qu'il faut dire aux gens qu'il y a une possibilité qu'on y accède. On est à 2 mois de la présidentielle, on a encore le temps. Les gens s'intéressent tardivement à l'élection. Donc pour moi, tout n'est pas perdu. Et donc, on a un travail militant qui est fait dans les quartiers populaires notamment, puisque ce sont des populations qui votent moins. Nous, depuis des mois et des mois, ça fait presque une année que nous faisons du porte-à-porte partout en France, que nous allons aider les gens pour s'inscrire, se réinscrire, parce qu'il y a beaucoup de mal-inscrits sur les listes électorales, pour essayer de montrer que c'est possible et que voilà, Jean-Luc Mélenchon peut accéder au second tour.
Bah, d'autant plus qu'il y aura, ne l'oublions pas, un troisième et un quatrième tour dans la foulée avec les législatives. Oui. Et que je pense que le travail qui est fait maintenant par les partis qui sont sur le terrain, S'il ne paye pas la présidentielle, en tout cas, il pourra avoir de l'effet après. Alors, on verra s'il y a un effet primaire populaire et si la candidature Taubira décolle dans les sondages prochainement. Personne n'a l'air convaincu autour de cette table. Pause d'une vingtaine de secondes avant de nous retrouver pour le deuxième débat de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Chaque semaine sur Radio Présence, les écrivains présentent leurs derniers ouvrages et se confient au micro de Monique Fauché. Parole d'auteur. La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Suite de cette mêlée de l'info avec mes trois invités, Françoise Laborde, Agathe Robbie et Christian Autier, pour un autre sujet politique qui n'a pas grand-chose à voir avec la gauche. Celui-ci, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il concerne le Rassemblement national. Après que Jérôme Rivière, chef de file des eurodéputés RN, et Gilbert Collard ont rallié le camp d'Éric Zemmour, Marion Maréchal a donc annoncé qu'elle ne soutiendrait pas sa tante Marine Le Pen à la présidentielle. Dans la foulée, Nicolas Bay, conseiller régional et eurodéputé, membre du bureau national du RN, a lui aussi réservé l'annonce de son soutien à la candidate du parti, déclenchant la colère de l'intéressé. Croyez-vous que d'autres figures du RN vont délaisser Marine Le Pen et qu'au-delà de la candidature de cette dernière à l'élection présidentielle, ses départs pourraient mettre le parti en danger dans les mois à venir ? Christian Autier.
Non, je pense que ça va agir. Enfin, on a déjà un petit recul entre le ralliement de Gilbert Collard et les derniers. Ça va agir à la marge de la marge de la marge. Ce sont des gens, Jérôme Rivière... L'électorat ne le connaît pas, donc non, je ne pense pas. Et par ailleurs, ce qui est aussi à double tranchant, c'est que, alors, ce sont des ralliements pour des gens du RN, ce sont des traîtres. Et c'est vrai que la figure du traître ou de l'opportuniste, on se souvient des gens qui avaient abandonné Jacques Chirac en 1995, c'est à double tranchant, quoi. Enfin, c'est pas forcément.
Il y a eu des précédents aussi au Front National à l'époque avec Maigret.
Oui, voilà. Donc c'est pas forcément bien vu les gens qui retournent. D'ailleurs, Bruno Maigret qui vient aussi de rejoindre Éric Zemmour, c'est pas tellement un message de rajeunissement ni d'avenir. Donc ça, c'est à double tranchant. Et par ailleurs, on a pu. Et puis il y a des ralliements qui sont peut-être problématiques. Je pense à Damien Rieux, qui vient de Génération Identitaire, donc un groupe de l'ultra-droite qui a été dissous il y a quelques mois par le gouvernement et qui a écopé dans ses 24 dernières heures de 3 plaintes pour diffamation et cyberharcèlement, des choses assez nauséeuses vis-à-vis des gens de LR, Valérie Pécresse, Damien Abad et un autre élu. Donc voilà, il y a des ralliements qui risquent de faire office aussi de boulet.
Mais par ailleurs, ma question, c'est pas tellement les ralliements à Zemmour. Moi, c'est le fait que des gens quittent le RN. Est-ce que ça fragilise le parti ? C'est plutôt ça, la question.
Non, enfin, du moins dans les sondages à ce jour, pas vraiment. Marine Le Pen
de
est
de l'intérieur.
Toujours... On verra. Ce qui se joue, effectivement, peut-être, c'est les législatives, puisque les gens censés ont compris que Éric Zemmour n'avait aucune chance d'être élu. Enfin. A priori d'accéder au second tour à ce jour, d'être élu président de la République encore moins, puisqu'il serait battu beaucoup plus largement que Marine Le Pen. Donc ce qui se joue, c'est le leadership de la droite ou de l'extrême droite après la présidentielle. Là, les gens de Zemmour ont un avantage, c'est-à-dire que Marine Le Pen sera battue, ça on le sait, si elle est au second tour. Valérie Pécresse, si on en croit les sondages aussi. Enfin, du loin,
Macron est réélu dans tous les cas de figure.
Les plus récents, elle est annoncée, battue à 54-46, alors qu'elle était à jeu égal il y a quelque temps. Oui. Donc voilà, ce qui se joue, c'est la recomposition entre Zemmour, le rapport de force entre Zemmour et Marine Le Pen. Mais malgré tout, Marine Le Pen va quand même être, selon moi, en tête des candidatures de droite et d'extrême droite.
Vous la voyez au second tour, même si elle sera battue assez largement par Emmanuel Macron, selon vous. Alors, Agathe Robbie, vous allez me dire, bon, moi, pour ce qui passe au RN, ça ne me concerne pas, mais tout de même, une recomposition politique, même si elle a lieu à droite ou à la droite de la droite, ça ne peut pas vous laisser complètement de marbre. Il y a des électeurs, on sait qu'il y a des électeurs qui votaient à gauche, qui ont longtemps voté à gauche, qui sont partis au Rassemblement National. Donc, vous regardez ça de loin ou...
Oui.
Un petit peu quand même, d'un peu plus près.
Non, moi je regarde ça de très loin. J'avoue que je ne suis pas particulièrement friande de commenter le mercato de l'extrême droite. Je ne suis pas là pour compter des points. Je ne sais pas si effectivement ces ralliements à Éric Zemmour ont une incidence sur le Rassemblement National. Je pense qu'il faudra attendre après la... L'élection présidentielle, pour voir ce qui se passe. Moi, pour moi, ce sont deux projets similaires. Pardon, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce sont deux projets d'exclusion, deux projets qui sont dans l'obsession identitaire et qui surfent sur la colère qui est légitime des Françaises et des Français, mais qui n'y apporte pas de solution. Voilà.
Alors, vous avez dit quelque chose, là, ce sont deux projets similaires. Je penserai après la question, Françoise Laborde va pouvoir y répondre. Mais bon, est-ce que vous pensez que ça fragilise quand même le RN de l'intérieur, tout ça?
Alors, ça dépend à quel niveau on se place, parce que c'est vrai que la trahison sur le coup peut permettre à d'autres de dire quand même c'est trahison, c'est inadmissible, et redonner un petit peu de peps. Voilà. Est-ce que les fidèles comme Jordan Bardella ou comme Stéphane Ravier, que j'ai eu l'occasion, hein, c'est pas une chance, et comme je serais pas méchante, je dirais pas une malchance, de fréquenter au Sénat, je vais rester donc correcte. Mais c'est vrai que lui c'est un bon coup de pied dans les fesses des membres du RN, on s'est endormi sur nos lauriers, on croyait qu'il y avait que nous à l'extrême droite, et il peut y avoir autre chose. Donc c'est peut-être aussi une façon de stimuler des personnes qui, là aussi, n'avaient peut-être pas un programme très clair, parce que Marine Le Pen, qui essayait tout le temps de dédiaboliser un certain nombre de choses, s'est plantée, parce que certaines l'ont trouvé sûrement trop mièvre, trop dans la négociation, qui n'est peut-être pas...
Il y en a même qui disent qu'elle est trop à gauche.
Voilà, on n'ira peut-être pas jusque-là quand même.
Mais certains le disent, voilà, au RN, oui, je dis bien, oui, au RN. Oui, ah ben vous, j'imagine que vous n'allez pas dire ça. Mais
voilà, bon. Donc ensuite, moi je pense que ça peut avoir une influence sur les parrainages. Parce que quand on voit quand même Sophie Grèche ou d'autres personnes comme ça...
Qui est une protégée de Stéphane Ravier, d'ailleurs, voilà. Au passage, signalons-le. Et donc c'est une élue de Marseille qui a parrainé Zemmour.
Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau des parrainages, ça peut avoir une influence, parce que je ne sais pas combien elle en a sous le coude. Donc ça,
elle a l'air de laisser entendre qu'elle était juste.
Hein, voilà, donc ça risque de lui poser problème. Et puis après, il y a l'histoire familiale, où le grand-père, la tante, c'est pareil, on dit Marion Maréchal, elle n'a pas le droit. Enfin, je veux dire, à un moment, je ne défends pas Marion Maréchal, je ne défends pas le FN, mais je défends la jeune femme qui a le droit de penser, de se lever le matin et de penser ce qu'elle veut. Quoi.
D'autant plus qu'elle a quitté le parti il y a 5 ans.
Voilà, c'est donc pas, maintenant, c'est pas nouveau, quoi. On ne va pas lui reprocher de faire ses choix. Que je ne partage absolument pas, je le redis.
Elle n'a pas fait de choix pour l'instant, elle a dit « je ne soutiendrai pas ma tante ».
Voilà, donc moi je pense que la fragilisation existait déjà, ça commençait quand même à se fissurer, on va dire. Mais il peut y avoir le petit sursaut de « on n'aime pas les traîtres », voilà. Mais moi j'attends de voir le nombre de parrainages quand même. C'est plus là que j'attends le...
Christian Autier, est-ce que tout ça, ça ne montre pas un peu les limites de la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen? Ce qui pourrait expliquer la désaffection de quelques cadres du RN. On ne sait pas si d'autres ne vont pas suivre. Il y a eu un échec quand même assez retentissant au régional du RN qui espérait prendre au moins une région, voire deux ou trois. Et ça ne s'est pas du tout passé comme il l'espérait. Est-ce que tout ça ne va pas dans le sens, petit à petit, d'une désagrégation, en tout cas aussi d'une perte de confiance de la tête d'affiche du parti?
Non, j'ai pas vraiment le sentiment. Encore une fois, quand alors évidemment, la candidature de Marine Le Pen est endommagée par la candidature d'Éric Zemmour. Les sondages, il y a 6 mois, 7 mois...
Elle était devant Macron.
Voilà, lui donnait 24-25, elle est à 16-17. Mmh. Donc elle a perdu 6-8 points qui sont allés chez Éric Zemmour. Mais malgré tout, force est de constater qu'elle résiste, que l'électorat populaire est toujours arrimé au vote Le Pen et que c'est pas si facile. Après, la poussée médiatique qu'a eu d'Éric Zemmour, des sondages flatteurs jusqu'à 13-14, voilà, d'accentuer d'accentuer cette percée. Après, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur les projets similaires de Marine Le Pen, Éric Zemmour. Alors, évidemment, il y a un bloc commun, mais moi, ce qui me semble assez
passionnant... Pas que ce soit tout à fait le même électorat, tout de même.
Non, et puis ce qui me semble assez passionnant avec la candidature d'Éric Zemmour, c'est qu'on bascule quand même... Marine Le Pen, c'est sa troisième candidature. Oui. Son père, j'ai oublié, je crois, au moins trois aussi.
À 88, la première.
Avec Éric Zemmour, qui était journaliste socialistes il y a moins d'un an, on bascule du côté farfelu et mirobolant. Oui. On est quand même dans la post-politique. On est dans l'ère Trump, Zelensky en Ukraine, qui était comédien il y a deux ans, Beppe Grillo en Italie. On bascule donc quand même dans quelque chose d'assez original et d'assez inédit.
Et
je reviens, je repensais justement à cette question des ralliements. Moi, ce qui m'avait frappé au fameux discours de Villepinte, c'est qu'il y avait déjà des ralliements. Alors, ils venaient pas, en l'occurrence, à l'époque, pas tous du RN, mais il y avait notamment Joachim Sonforger, qui était un ancien député de la République en Marche, qui a été exclu du mouvement parce qu'il est, lui aussi, il est assez curieux, on va dire.
Oui, il est, comment dirais-je.
Sans s'apesantir. Il y avait Christine Boutin, ancienne candidate à la présidentielle, dont la dernière prise de position publique consistait à dire que le virus Omicron, en fait, avait été choisi comme dénomination pour faire penser à Emmanuel Macron et faire de la propagande subliminale pour Emmanuel Macron. Donc, on en est là. Ouais. Et il y avait Jacqueline Mourot, qui allait initier le mouvement des Gilets jaunes, qui a tenté auparavant de faire une carrière dans la chanson, qui voulait se présenter aussi à la présidentielle, qui pratiquait naguère l'hypnose pour guérir de certaines maladies, et ensuite qui proposait, je ne sais plus quelle est cette discipline, de dialoguer avec les disparus, avec les morts. Donc voilà, c'est les gens qui avaient au premier rang, c'était les premières recrues, enfin parmi d'autres, mais celle-ci m'avait frappé.
Mais ça avait fait sourire à l'époque.
On est quand même dans une sorte de post, encore une fois, de post-politique, où voilà, tout est possible, et c'est là, malgré tout, où il y a, et là aussi, peut-être, ça explique la résistance, si je puis dire, enfin, électorale de Marine Le Pen, c'est qu'elle reste solide sur ses acquis et que le côté, effectivement, plus radical d'Éric Zemmour, là, entre guillemets, recentré, comme tout le monde dit, et qu'elle est, malgré tout, jusqu'à ce jour, alors peut-être qu'il y aura une dégringolade, mais à 16-17%, et qu'elle est qualifiée à ce jour pour
les positions sont assez figées quand on voit les sondages qui sortent presque pas tous les jours mais pas loin. On reste à des positions 16-17, en tout cas le seuil d'accès au second tour reste à 17, très bas finalement, très bas, et on est souvent un peu dans la marge d'erreur, même entre les trois, le deuxième, le troisième, le quatrième, Zemmour étant toujours donné quatrième pour l'instant. Mais bon, vous Agathe, quand vous voyez ça, vous pensez que ça va évoluer comment?
Non,
à part Mélenchon qui va monter, bien sûr, mais...
Mais le seuil est bas, donc regardez, 17%, non, on est à 13-14.
Pour l'instant,
c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas loin. Non, je suis d'accord avec vous, je disais pas que... Effectivement, il y a une différence de forme. Et je suis d'accord qu'on voit une volonté depuis plusieurs années de Marine Le Pen de montrer qu'elle peut être en responsabilité, alors que Éric Zemmour est beaucoup plus dans l'outrance. Mais sur le fond... Des projets, moi, je trouve, en tout cas, ce que j'analyse de loin, hein, peut-être, sont les mêmes. C'est-à-dire, on a des projets qui font des immigrés un peu des boucs émissaires, sont dans l'exclusion et disent, voilà, c'est la faute aux musulmans, c'est la faute aux immigrés, et on va résoudre tous les problèmes de la France en jetant ces personnes dehors. Et donc, c'est quand même là, sur le fond, je pense, malgré cette volonté de Marine Le Pen de faire croire que elle est... pas respectable, c'est pas ça que je veux dire, mais j'arrive pas à trouver mon mot aujourd'hui, qu'elle a un programme, comment dire, raisonnable, sur le fond, c'est ça. C'est ça que je voulais dire.
Vous, Françoise Laborde, c'est ce que vous pensez, que c'est des programmes similaires, Zemmour et Marine Le Pen, et un électorat qui, finalement, peu ou prou se ressemble? Moi, j'ai pas l'impression, tout de même.
Alors, il y a quand même une radicalisation côté Zemmour, parce que ce sont des excès. Il y a cette partie journalistique qui l'utilise...
Un polémiste, à la base.
Voilà. Donc, là, il a une expérience du verbe aussi. Et donc, ça, il en use et il en abuse. Il y a toute cette... façon de dire les choses, parce que bon, moi je veux bien qu'on parle d'immigration, mais il s'appelle Éric Zemmour, bon, ça fait sourire là aussi. Et d'ailleurs, Marine Le Pen dit...
Il lui arrive de le mettre en avant, lui non plus, il est un Français de branche et pas un Français de souche.
Voilà.
Oui, bon, Nicolas Sarkozy l'avait fait aussi. Voilà. C'est la même.
Donc d'un côté, il y va fort, de l'autre, il met en avant. Non, c'est pas tout à fait le même programme. Après, à un moment, ça peut... Vous voyez bien comment... et Valérie Pécresse par rapport à Ciotti, on sent que tout le monde se dit « faut pas que les voix partent chez un tel », donc vite on dit trois phrases à l'envers.
Valérie Pécresse, on sent que parfois elle est sur la corde raide.
Voilà.
C'est qu'elle pourrait faire un pas de côté.
Voilà, non mais on sent qu'elle est sur la corde raide parce qu'elle, on se dit « bon, elle est LR, voilà ». Mais la corde raide de Zemmour ne nous étonne pas, et puis c'est en effet du spectacle, sauf que le spectacle... Comme les gens étant, pardon, les Français, les électeurs, ne croient plus en la politique, ne croient plus dans leur politique, n'ont plus du tout la notion de ce qu'est la démocratie, parce que quand même, on vit en République. Eh bien, tout ça, ils s'assied dessus et ils vont essayer n'importe quoi. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Et c'est ce qui donne un peu de poids à Zemmour, c'est ce qui n'en enlève pas à Le Pen. Et ça fait encore des gens pour qui je voterai pas. Et bien ce soir, on est mal.
Christian Hocquet. Oui, puisqu'on parle des mouvements de tectonique à droite ou à l'extrême droite, on parle beaucoup, à juste titre, de la désunion, de l'explosion façon Pulse de la gauche. Mais il ne faut pas oublier que la droite aussi est extrêmement désunie.
Bien sûr.
Il n'y a pas que les trois candidatures dont on parle. D'abord, là aussi, il ne faut jamais oublier que chez Emmanuel Macron, si vous citez le gouvernement, il y a quand même Jean Castex, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, pour ne citer que. Donc il y a quand même, la droite, elle est aussi au gouvernement. Vous avez donc évidemment Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais vous avez Nicolas Dupont-Aignan qui est entre deux et demi, vous avez Florian Philippot qui veut se présenter, vous avez François Asselineau, candidat souverainiste, qui est aussi testé dans les sondages, qui a 0,5 avec Philippot.
À bout à bout, ça fait 3.
Et vous avez Jean Lassalle qui vient du centre droit, on ne sait même plus trop où il est, même avec des petits scores, derrière les trois candidats, il y a aussi un paysage assez morcelé, et ça qui est drôle de la part des gens qui veulent faire l'union des droites, enfin du moins pour Éric Zemmour ou Marine Le Pen qui dit je suis la seule capable de rassembler, ils sont pas capables de rassembler eux aussi des candidatures aussi entre guillemets marginales que Nicolas Dupont-Aignan qui avait rallié Marine Le Pen au second tour.
Qui apparemment a l'intention d'aller jusqu'au bout.
Florian Philippot, c'est les signatures qu'il y a jusqu'au bout, là aussi, c'est quand même assez fantastique.
Je suis pas sûr qu'il ira jusqu'au bout, lui. Mais voilà. Je reviens à ma question de départ sur l'avenir du RN, excusez-moi d'y revenir, parce que, on a beaucoup entendu dire que si Marine Le Pen essuie un nouvel échec à la présidentielle, a fortiori si elle n'est pas au second tour, sans doute ça pourrait signifier pour elle un retrait de la vie politique définitif. Est-ce que cela signifierait inévitablement la fin du RN, parce que c'est un parti qu'on identifie beaucoup au nom Le Pen, dont elle a hérité de son père en plus. Est-ce que ça pourrait être la faillite définitive d'une PME familiale qui arrive au bout de son histoire? Christian Hocquet, peut-être là-dessus. Vous ne croyez pas, vous?
Je ne sais pas, il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse d'un... Je pense longtemps, ça peut être un effet générationnel, je suis né en 1969, donc j'ai connu les périodes de gloire, si je puis dire, d'expansion de Jean-Marie Le Pen, que le nom Le Pen était en repoussoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que Marion Maréchal a occulté le patronyme Le Pen. Donc j'imagine très bien qu'un Jordan Bardella puisse prendre le relais et justement effacer pour les plus anciens ce côté, ce saut Le Pen et présenter, comme ça a été le cas dans d'autres pays, une extrême droite plus jeune, plus moderne, etc. Sinon, il y a toujours évidemment l'hypothèse Marion Maréchal, c'est réussi l'OPA à reprendre le parti de sa tante. Enfin, il y aura effectivement après la présidentielle un Game of Thrones du côté du RN, mais malgré tout, après, sur le plan électoral et législatif, je pense que le RN sera tout de même beaucoup plus armé que le parti Reconquête d'Éric Zemmour, et que c'est le RN qui va, enfin, à sa mesure, ils sont 3 ou 4 députés, je crois, qui aura la possibilité.
7 ou 8, peut-être, je ne sais plus. Enfin bon, oui, très peu. Le système étant ce qu'il est, ils ne peuvent pas en avoir beaucoup plus. Cette question là, au RN va se poser aussi à la France Insoumise, je suppose, après le. Parce que si Jean-Luc Mélenchon n'est pas élu, on peut toujours rêver, il va passer la main. Donc il va y avoir aussi, si ce n'est une guerre de succession, en tout cas, il va falloir désigner un nouveau chef de file.
Mais alors, la situation
serait... Non, c'est pas une PME comme chez Le Pen,
c'est complètement différent. Et puis, les situations seront complètement différentes si nous gagnons, ce qui est possible, et si, effectivement, les députés de la France Insoumise, puisque je pense qu'il y en aura, se retrouvent dans l'opposition.
Les
guerres de succession, c'est pas au lendemain d'une élection que les choses se font. Il y a aujourd'hui un groupe de députés... Non. Et puis, il y a un groupe de députés qui travaillent collectivement, avec plusieurs têtes qui émergent, et les choses se feront au fur et à mesure, dans le temps.
Parce que quand on regarde le paysage politique, on a l'impression que beaucoup de partis vont être concernés par ça. Parce que Anne Hidalgo, 2%, que va devenir le Parti Socialiste. La France Insoumise, on sait que Jean-Luc Mélenchon, ça sera a priori son dernier tour de piste.
On en a 17 députés
qui sont
capables de reprendre sans aucun problème.
Il va y avoir du revenu ménage un peu partout. Alors vous, Françoise Laborde, l'avenir du RN, si Marine Le Pen n'est pas élue ou si elle fait un mauvais score?
Moi, je partage ce que vous disiez, monsieur, parce que il y a quand même une assise. Donc la vieillerie ou la vieille entreprise Le Pen, la PME qui se casse la figure, bon, ben, ça arrive à d'autres. Et puis, il y a des PME qui sont rachetées par d'autres. Et puis, il y a aussi une certaine succession, malgré tout. Hein. On parle d'héritage beaucoup dans la campagne, d'ailleurs. Hein.
Oui.
Mais je pense que oui, il doit y avoir quand même un programme des valeurs qui sont les leurs, hein, et qui peuvent être partagées. Et donc, il y aura des députés. Je pense qu'il y aura des députés, plus de députés RN que de députés côté Zemmour. Ça, je le pense. Mais non, moi, je pense qu'il y aura une succession. Mais la succession, ce ne sera pas la succession d'un nom. Hein, Le Pen père, Le Pen Marine, ce sera, puisque en plus Marine, Marion Maréchal, voilà. Elle, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont dépendre d'elle quand même aussi, parce que elle a une personnalité, elle est jeune, si elle est aidée par quelques cadres un peu plus jeunes, il peut y avoir une suite au RN, oui. C'est oui. Pas la mort.
Elle a monté son école aussi. C'est pas. Enfin.
Oui, apparemment.
C'est pas anodin. Cette volonté, peut-être, de réfléchir à l'après. Moi, bon, je suis d'accord. Hein, je pense pas qu'il y a des élus Rassemblement National maintenant depuis un certain temps qui sont formés, qui sont là pour prendre la relève. Ouais. Et elle existe. Et.
S'il reste au parti.
Oui. Mais il y aura sans doute une recomposition, comme il y aura peut-être une recomposition à gauche également. Donc.
Voilà, alors quid de l'avenir du Rassemblement National? Eh bien, le résultat de Marine Le Pen à la présidentielle pour en décider, en tout cas le conditionner en grande partie. Place maintenant à vos colères, vos coups de gueule ou vos coups de gueule, ou vos coups de cœur, pardon, du jour pour les dernières minutes de cette émission. On va écouter d'abord celui d'Agathe Roby.
Alors, je n'y ai pas réfléchi du tout, donc je vais donner un coup de cœur d'historienne. Aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, est paru un petit livre des historiens contre Zemmour. C'est un collectif d'historiens.
Ça, ouais.
Voilà. On parlait d'Éric Zemmour, donc
démontre un peu. Vous inquiétez pas, on en parle à chaque émission, même si ce n'est pas le sujet.
Oui, voilà. Donc, il démontre des absurdités, parce que je tiens à le dire. Il y a beaucoup de contre-vérités dans le discours d'Éric Zemmour en termes d'histoire. Il sollicite beaucoup l'histoire dans son discours politique, et c'est très problématique. Et donc, il y a ce petit livre qui paraît en librairie et qui est le bienvenu, et je suis très heureuse qu'il soit paru.
Mais c'est un tract Zemmour contre l'histoire, je
crois. Oui, c'est ça, exactement.
Le titre de ce livre. Françoise Laborde, vous, c'est un coup de gueule, c'est un coup de cœur. On laisse Christiane Taubira tranquille.
Promis, c'est un coup, c'est une inquiétude par rapport à notre politique étrangère.
Ah.
L'Ukraine, la position de l'Europe, les jeux, et pardon d'employer ce mot, parce que ce sont des jeux politiques, mais ce sont aussi
des jeux stratégiques aussi.
Des jeux stratégiques, mais on joue pas aux petits soldats, voilà. Donc il y a l'Ukraine, il y a le Mali, bien sûr. Et puis, en coup de gueule, il y a aussi l'ouverture des JO demain à Pékin. Alors, certains pays ont fait le choix de ne pas envoyer de représentants. D'autres, bien sûr, les envoient. Et nous, on fait un petit peu de en même temps, puisque j'ai entendu que Roxana Maracino irait non pas demain, pour manifester quand même qu'elle n'est pas contente, mais après-demain, pour soutenir nos sportifs. Bon, voilà, moi je suis un peu...
Vous pensez qu'on aurait dû boycotter ?
Je suis un peu perplexe. Il faut assumer, moi je ne suis pas dire... Après, ça dépend de la conception qu'on a des JO. Les JO, normalement, on ne fait pas de politique. Si on choisit de ne pas faire de politique, on y va, on l'affirme, et on ne dit pas peut-être que, etc. Moi, je veux vous dire, je pense qu'on a le droit de dire qu'on y va, mais il faut l'assumer. On a le droit de dire qu'on n'y va pas, pour des raisons... Même si, est-ce que... Voilà, les JO ont beaucoup évolué. Et on le verra quand ils vont arriver en France. Et là, j'aurai des coups de gueule, donc vous pourrez me réinviter. toujours pareil, les femmes, l'égalité, le voile. J'ai pas fini de vous casser les pieds.
Non, mais vous ne cassez pas les pieds.
Mais sur cette partie Pékin, voilà, il faut être capable de dire... On a besoin d'échanges d'entreprises, on a besoin de ci, on a besoin de là. Ou alors, on ne fait pas de politique parce que ce sont les JO. Mais faire toujours des tournicotis, tournicotas, je trouve qu'on en fait de plus en plus sur tout, et ça me gêne.
Voilà. Oui, protester gentiment pour la forme, vous trouvez que c'est un peu ridicule.
Voilà.
Ou on se tait, ou on n'y va pas.
Voilà.
Ouais. Christian Autier, vous, ce sera un coup de gueule, coup de cœur?
Non, un coup de cœur, moi
c'est
aussi.
C'est souvent des coups de cœur, Christian Autier.
Et encore une fois, un livre, moi aussi. C'est un roman, non, c'est plutôt un récit autobiographique de Jean-Noël Pancrazy, Les années manquantes, chez Gallimard, qui vient de sortir. Jean-Noël Pancrazy, c'est un auteur assez connu. Il a eu le prix Médicis, le grand prix du roman de l'Académie française. Et là, il revient une nouvelle fois sur sa jeunesse, son adolescence, dans les dernières années d'Algérie française. L'exil avec ses parents, qui étaient des gens de peu, des gens ordinaires. L'installation dans les Pyrénées-Orientales, le rejet que cette communauté ressent, que ces pieds noirs ressentent. Et puis après, la découverte de Paris, jeune homme, la Sorbonne, les années 80, les années Palace, et aussi, hélas, les années Sida. Et cet homme donc raconte un petit livre d'une centaine de pages, c'est extrêmement dense, et sur la mémoire, et raconte voilà son parcours de manière très très fulgurante. Et à la fin, je dévoile rien, c'est pas un spoiler comme on dit en bon français, mais à la fin il se rend compte que tous ces gens, tous cette famille de cinglés comme il le dit lui-même, ne l'a pas quitté. C'est très beau, très émouvant.
Le titre ?
Les années manquantes chez Gallimard, Jean-Noël Pancrazy.
Les années manquantes de Jean-Noël Pancrazy aux éditions Gallimard. Eh bien, merci à vous trois. C'est la fin de cette 62e mêlée de l'info. Merci d'y avoir participé et d'avoir débattu des deux sujets au sommaire de ce numéro. Merci également à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès ce soir, dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Tous mes remerciements à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bon week-end à tous.